BW. Vue d'Allemagne.
La France souhaite davantage d'engagement de la part des pays européens en matière de défense et de sécurité. Le président Emmanuel Macron a lancé à Munich l'idée d'un dialogue stratégique, notamment sur la défense nucléaire. L'Allemagne réagit prudemment, décryptage dans un instant. Dans la deuxième partie de ce magazine, on s'installe confortablement devant la télé. En Égypte, le Joe Show utilise l'humour pour critiquer le régime de Fatah al-Sissi. Et ce n'est pas sans risque. Reportage. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Le Touzé pour vous présenter ce magazine. Willkommen. Bienvenue. Le président français Emmanuel Macron a participé pour la première fois à la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue la semaine dernière dans la capitale bavaroise. L'occasion de mettre sur la table un souhait qui lui tient à cœur, celui d'une politique de défense commune européenne.
Je dis maintenant, nous devons rentrer dans un dialogue stratégique avec tous les partenaires qui le souhaitent, y compris sur le nucléaire. L'étape pour moi à laquelle on est au niveau européen, c'est de dire la France croit à une Europe de la défense et donc nous sommes prêts à passer ce pas et à proposer à tous les partenaires qu'ils souhaitent d'entrer dans un dialogue stratégique inédit et de regarder une culture commune sur ce sujet.
L'objectif est de réduire la dépendance des Européens à l'OTAN et surtout aux États-Unis en permettant à l'Europe de développer ses propres moyens de défense. Il faut dire que les relations sont devenues compliquées entre les membres de l'Alliance militaire transatlantique depuis que Donald Trump est aux commandes outre-Atlantique. Pour autant, la plupart des pays européens restent attachés à l'alliance avec les États-Unis. L'Allemagne en fait partie, comme en témoigne la réaction de Heiko Maas, le chef de la diplomatie allemande à la proposition française.
Nous allons devoir faire davantage à l'avenir pour notre propre sécurité, mais je pense que ce serait une erreur de monter l'Europe et les États-Unis l'une contre l'autre. Nous sommes réunis dans une alliance de défense qui fonctionne, à savoir l'OTAN. Nous voulons renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN et pour y arriver, nous devons d'abord parvenir à un accord en Europe. Le dialogue proposé par Emmanuel Macron peut y contribuer de manière substantielle et c'est pourquoi nous allons l'accepter.
Les relations franco-allemandes ne sont pas non plus au beau fixe ces derniers temps et surtout pas dans le domaine de la coopération militaire, souligne pour sa part Barbara Kunz. Elle est spécialiste des questions de défense et de sécurité européenne à l'Institut de recherche sur la paix et la politique sécuritaire basé à Hambourg.
Tout ça découle d'un mécontentement assez profond à Paris sur le rôle que joue l'Allemagne dans le contexte sécuritaire européen en général, donc bien au-delà du nucléaire. En France, on a l'impression que l'Allemagne ne fait pas assez. Les forces armées allemandes sont dans un état catastrophique. Les Allemands refusent les opérations extérieures vraiment dangereuses, comme par exemple au Mali. Enfin, les Allemands sont présents au Mali, mais ce que souhaite la France, c'est du soutien allemand pour son opération Barkhane. Et ça, c'est vraiment un thème récurrent entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire un vrai problème du partage du fardeau entre Paris et Berlin. Ça, c'est vraiment l'arrière-plan de tous ces débats-là.
Selon Barbara Kunz, la France cherche par sa proposition à réveiller les Allemands pour être prêts en cas de désengagement des États-Unis en matière militaire. C'est également ce que pense l'ancien diplomate allemand Wolfgang Ischinger, qui préside la conférence de Munich pour la sécurité. Il estime que l'Europe est en train de réapprendre le langage du pouvoir.
We need to figure out how a union.
Nous devons déterminer comment l'Union européenne, qui a été dans le passé trop occupée avec ses affaires internes, peut apprendre à exercer son pouvoir diplomatique, économique, mais aussi militaire si nécessaire. Ce que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas unis, nous ne parlons pas la même langue. Donc je pense que l'Union européenne, et c'est un fait nouveau, vient de se réveiller et c'est une bonne chose.
La question de l'armement nucléaire revient régulièrement sur la table lorsqu'il s'agit de défense européenne. Lors de la conférence de Munich en 2019, Wolfgang Ischinger avait déjà plaidé pour une intégration des armes nucléaires françaises au système de défense européen. Mais si cette question semble dominer le débat, elle n'est pourtant pas la priorité de la défense européenne, selon Barbara Kunz.
Personne ne réfléchit vraiment au rôle de la dissuasion nucléaire. Quand vous regardez les vrais débats et les vrais problèmes aussi de sécurité en Europe, on a d'un côté ce qui se passe en Afrique, je veux dire l'opération Barkhane, la problématique terroriste, etc., où franchement la dissuasion nucléaire n'a aucun rôle à jouer. Et puis vous avez de l'autre côté tout ce qui est Russie et toutes les mesures prises par l'OTAN pour bien faire comprendre aux Russes que les Pays-Baltes, c'est pas pour eux, etc. Si jamais les Russes décident d'aller envahir l'Estonie, à quoi ça sert d'avoir la dissuasion nucléaire? Ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout discutées. Et donc on a un débat sur le nucléaire qui est, pour moi en tout cas, complètement détaché des réalités du débat sécuritaire européen et où on vraiment discute en termes d'assurance vie.
La bombe nucléaire comme assurance vie, les Verts allemands n'en veulent pas, souligne de son côté la députée écologiste Agnieszka Brugger.
Bien sûr, nous devons mieux nous positionner en Europe et collaborer plus étroitement en matière de politique de sécurité. Mais je ne crois pas que l'objectif doive être une arme nucléaire européenne. Surtout à un moment où les États-Unis et la Russie sont en plein réarmement nucléaire. Nous devons rappeler que toutes les puissances nucléaires ont promis de désarmer et de s'engager ensemble pour le contrôle des armes.
L'opinion publique allemande non plus n'est pas prête à débattre de cette question et la classe politique est également frileuse lorsqu'il s'agit de questions militaires, explique encore Barbara Kunz.
Vous avez une opinion publique qui est opposée aux interventions militaires. Vous avez aussi l'état de la coalition au pouvoir à Berlin qui n'est pas très bon, on va dire, et où vous avez surtout les sociodémocrates qui reviennent vraiment à des positions très très pacifistes. Ça se voit dans les opérations militaires, mais ça se voit aussi dans les questions comme par exemple les exportations d'armement. Et donc c'est un sujet politiquement très très compliqué en ce moment. Enfin, ça l'a toujours été en Allemagne, mais là ça l'est davantage. Et surtout, vous n'avez personne dans le paysage politique allemand qui miserait sur les questions de défense. Et donc tout ça, évidemment, ça empêche aussi la réflexion stratégique. Le débat stratégique allemand, si vous voulez, il reste très très réactif. Les États-Unis ont des attentes concernant le budget de défense, par exemple. La France a des attentes concernant les interventions militaires. Et après, le débat allemand, c'est sur est-ce qu'on va répondre positivement à ces attentes. Ça reste passif, ça reste réactif et ça aussi, ça complique énormément les choses.
En cas de guerre, la Bundeswehr serait tout de même d'ores et déjà impliquée dans des attaques nucléaires. Des missiles atomiques sous contrôle américain sont stockés à Büchel, en Rhénanie-Palatinat. Si un conflit venait à éclater, ce seraient des tornados allemands qui les achemineraient vers leur cible. Alors certes, les avions sont en fin de vie et doivent être remplacés d'ici quelques années. Mais la nouvelle génération d'avions de chasse est déjà lancée avec un projet de coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne qui doit aboutir d'ici à 2040. This is a story of Adam and evil. The courtship is causing a great upheaval. Now Adam was a sweet, young, innocent thing until the night that Miss Evil took him under her wing. Now Adam was a... Amnesty International est catégorique. L'Égypte a connu cette année la plus vaste campagne de répression depuis la reprise en main du pays par le maréchal Al-Sisi. Propulsé à la tête de l'Égypte à la faveur du coup d'État de 2013, celui-ci goûte peu le vent de soulèvement qui s'est emparé de son pays en septembre et octobre dernier. Des milliers de personnes étaient descendues dans les rues pour dénoncer la corruption et demander son départ. Plus de 4000 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement, selon des ONG locales. Aujourd'hui, on estime à 300 le nombre de prisonniers en grève de la faim dans les geôles égyptiennes. Face à ce régime répressif, l'exil s'impose pour ceux qui veulent pouvoir continuer à faire entendre une voix dissonante. Depuis des années maintenant, Youssef Hussein, présentateur de Joe Show, une sorte de late show à la sauce égyptienne, tourne en dérision le régime militaire qui cadenasse son pays. Son arme, l'humour. Reportage dans les coulisses de cette émission hebdomadaire à succès.
Youssef Hussein presse le pas. Il a accepté de m'ouvrir les portes des studios de son émission à une seule condition, ne pas révéler le pays qui les abrite. Il y a de la paranoïa dans l'air. Il faudra quelques minutes pour la dissiper. Le générique de l'émission est lancé. Youssef, le présentateur, se détend enfin. Les répétitions commencent. Ici, chaque semaine, on élabore un programme qui fait l'effet d'une bombe en Égypte.
Cette semaine, c'était l'anniversaire du président Al-Sisi. Joyeux anniversaire. Puisse votre mandat durer 100 ans. Façon de parler, hein, il serait capable de le faire.
L'humour, le cynisme pour dénoncer l'autoritarisme du président Al-Sisi. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire en 2013, l'homme est omnipotent et omniprésent selon Youssef. Le présentateur trentenaire, à l'air jovial, assume de s'attaquer à cette figure de façon systématique.
Nous ne faisons pas une fixation sur le président Al-Sisi, c'est juste que l'Égypte est aujourd'hui devenue le pays d'un seul homme. Tu ne peux évoquer aucun sujet sans parler de lui. Personne n'ose dire au président qu'il fait des erreurs. Alors Al-Sisi, qui n'a pas de charisme mais ne doute de rien, multiplie les bourdes. Cela donne une matière formidable pour notre émission.
Et le succès est au rendez-vous. Sur Internet, certains épisodes cumulent jusqu'à 5 millions de vues. Une fierté pour Youssef et son ami Ahmed. Le trentenaire à l'allure de bodybuilder est le rédacteur en chef du programme. Ancien ingénieur en informatique, il a rencontré Youssef en 2011, place Tahrir. La révolution bat son plein. Les deux jeunes hommes se lancent alors dans des vidéos sarcastiques qu'ils pensaient sans lendemain.
Quand on a commencé en Égypte, on n'était que deux, Youssef et moi. Du coup, on devait tout faire, filmer, produire, monter, écrire et même le maquillage. Maintenant, dans l'équipe de l'émission, on est plus d'une trentaine.
Devenus inséparables, les deux jeunes hommes griffonnent des sketchs frénétiquement, comme deux enfants qui préparent un sale coup. Perturbateur dans l'âme, il s'inspire des codes des late shows américains. Avec son bureau vintage, son mug à l'effigie de l'émission et les rires enregistrés, Youssef est le Jimmy Fallon des Égyptiens.
Les émissions politiques satiriques existent un peu partout dans le monde. C'est le cas au Canada ou aux États-Unis par exemple. Mais dans le monde arabe, ça n'a commencé véritablement qu'en 2011 avec l'avènement des printemps arabes. Il y a alors eu un vent de liberté, les gens se sont sentis libres de dire ce qu'ils pensaient et c'est donc très naturellement que ces programmes ont éclos. Mais à partir de 2013 et surtout après le coup d'état militaire en Égypte, tout ça est devenu de plus en plus compliqué.
Depuis le coup d'état, est difficile de faire entendre une voix dissonante en Égypte. Les médias sont étroitement surveillés. Une presse aux ordres, Ketri Youssef et ses acolytes. Chaque semaine, il compile le meilleur de la propagande égyptienne, extrait choisi.
Vous savez, nous avons un président qui ne s'arrête jamais.
Il ne fait rien d'autre que travailler.
Des journalistes égyptiens, devenu courtisan, selon Youssef.
Dans les médias égyptiens, c'est le règne du point de vue unique, celui du régime. En montrant ces compilations aux téléspectateurs, on veut qu'ils soient saisis par le décalage qui existe entre ce qui est dit et la réalité.
Les médias indépendants qui émettent encore d'Égypte se font désormais rares. Le jour de mon reportage, Youssef et Ahmed, leur smartphone greffé à leurs mains, se tiennent informés des dernières informations en provenance du pays et elles ne sont pas bonnes du tout. Youssef découvre cette dépêche.
Descente dans les locaux du journal Madar Masser, opéré par 9 agents, tous les téléphones et ordinateurs des journalistes ont été saisis.
Des nouvelles qui renforcent leurs craintes. Eux qui s'attaquent au régime de façon virulente ne se sentent plus en sécurité. Tapis quelque part entre l'Europe et le Moyen-Orient, ils craignent que leur tour n'arrive un jour. Les intimidations sont nombreuses, m'explique Youssef. Elles arrivent directement sur son téléphone.
Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'un gars qui m'a carrément envoyé l'adresse de mon domicile ici. Il m'a dit « Je sais où tu habites ». Ce serait mentir que de dire que ça ne m'affecte pas, surtout que j'ai une famille, une femme et une petite fille. Mais c'est comme ça, c'est le prix à payer et on est prêt à le payer.
Ahmed, le rédacteur en chef, acquiesce de la tête au dire de Youssef. Puis, le silence. Soudain, les deux joyeux compères semblent avoir perdu leur insouciance. Leur pays, l'Égypte, caracole en tête d'un piètre classement, le troisième au monde, en termes de journalistes emprisonnés.
Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à Amira Swilem pour le reportage en Égypte. Merci aussi à Barbara Kunz qui nous a éclairé sur les questions de défense européenne et à Rosalia Romanek pour les sons recueillis à la conférence de Munich sur la sécurité. Merci également à vous de nous suivre fidèlement. Vous pouvez réécouter et partager cette émission en allant sur la médiathèque de notre site dw.com/français. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon qui reprend la main. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !